vérifier que le transfert avait été fait ou pas. Et donc t'as la plombe de rue, mais des fois t'as pas le numéro, t'as même pas le nom de la rue, c'est-à-dire que tu repères, tu vois, en fonction de l'orientation. Et oui, après tu trouves, enfin il faut absolument aller voir, c'est sûr, ça excite considérablement la curiosité. Quand j'apprends qu'il y a un trou quelque part, comme les glacières là, de Clermont-Ferrand, il y a deux glacières au moins, donc ça c'était des, en fait, c'était des silos, qui étaient donc maçonnés sur les côtés, dans lesquels on descendait de la glace des volcans, et on pouvait la garder quasiment toute l'année. Alors après, bien sûr, ça, la glace fondait en hauteur, ça devait ruisseler à travers les murs, et puis plus la glace fond, plus il y a de l'eau, plus s'entraîne la glace qui fond. Donc je suis pas sûr que toutes les années ça pouvait conserver pareil, mais ça servait à conserver de la glace. Deux glaciers comme ça, et je connaissais depuis très longtemps l'existence de l'une, mais l'autre j'ai appris, enfin que récemment, c'est pas vrai, mais il y a longtemps, j'ai appris plus tardivement l'existence de l'autre, et j'ai eu du mal à trouver, parce que justement elle était bien connue, celle-là, elle était fermée, très difficilement ces silos. Donc ça c'est des silos, et on rentre par l'eau, en fait, il faut descendre en bordée où il y a une échelle, mais qui est un petit rouillé, un petit cassé. Ça fait 5-6 mètres de haut, 6-7 mètres de haut, c'est une forme de silo. Aussi sale que le reste des caves, c'est-à-dire que des choses ont été jetées dedans. Donc en fait, tu rentres par le haut dans une espèce de fenêtre qui fait 1m20 de haut par 40-45 cm de large. Au milieu du haut de la citerne, il y a une poulie qui devait servir à monter des seaux de glace ou des seaux de chaud. Alors évidemment, c'est pas la poulie sur laquelle on s'accroche parce qu'elle est complètement mouillée, mais. Voilà, il faut descendre. Bon, ça présente un intérêt très relatif, une fois, on l'a fait une fois, mais c'est quand même marrant. C'est un lieu de stockage de glace ou d'eau. Des glacières sous Clermont. Voilà, il y a ça, il y a aussi une légende qui raconte qu'il y avait une prison. En fait, des petits box en métal servaient à des prisonniers. Donc là, j'imagine même pas les conditions d'incarcération. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On raconte que les prisonniers avaient écrit sur les murs, etc. Mais est-ce que c'est effectivement contemporain de cette époque-là, ou est-ce que c'est des farces qui sont plus récentes, qui peuvent même avoir un siècle, hein? J'en sais rien. Quand on voit la maigreur des barreaux qui servaient à délimiter ces boxes, je suppose qu'aucun prisonnier est un peu énervé, on peut plus défoncer sa prison. Je pense que c'était plutôt des lieux pour terminer des box pour les propriétaires, en fait, au-dessus, il y avait plusieurs propriétaires au-dessus, donc il y avait 6 propriétaires, 6 box, il y a une logique à tout ça. Il y a des coins comme ça, où les gens courent un peu, mais ça reste léger. C'est, les gens se font plaisir à donner de la légende là où il n'y en a pas, en fait. Justement, le caractère ultra concret des caves, c'est quoi cette curiosité? C'est laquelle cette curiosité? Est-ce que c'est simplement d'avoir un souvenir celui-là, de m'entendre parler de celui-là, ou tu as l'impression qu'il y a des vraies légendes et que tu vas pouvoir expliquer ces vraies légendes? Alors, mon vrai boulot à moi, c'est de dire oui, tout ça c'est intéressant, mais en fait il n'y a pas de légende. C'est ultra concret, les gars. Il n'y a presque pas de magie. La magie, c'est celle qu'on y apporte en y faisant des choses nouvelles, en fait, dans ces lieux. Et donner l'illusion que. Alors c'est une démarche que je comprends, contre laquelle je ne suis pas contraint, une fois je ne me place pas en juge là-dessus, mais dire que voilà, on peut aller de la cathédrale à Jeanne d'Arc en Jeep, que des armes ont été cachées, qui ont été retrouvées là, au XXe siècle, qui étaient encore en état de fonctionnement, qu'on pouvait rejoindre la mairie depuis la cathédrale, que on pouvait traverser la butte de Clermont-Ferrand, ça sert en fait à maintenir un imaginaire vivace là-dessus, questionnant, intriguant, qui font qu'en fait les gens des caves, la plupart des gens ont des caves, une vision complètement fantasmée, quoi. Une ancienne prison, voilà, on peut imaginer tout et rien, après, je veux dire, des messes noires, des pendaisons sous le sol, des crucifixions, enfin tu vois, on peut faire des trucs comme ça. T'entretiens un effet de mythe, quoi, et en fait, il n'y a pas d'effet de mythe, quoi, c'est des caves, c'est vraiment... C'était creusé pour des raisons pratiques de stockage, ça a été délaissé à partir du moment où on a considéré où les conditions de vie se sont améliorées, où les frigos, les planchers chauffants, les murs en béton. là, le confort s'est tellement amélioré que les gens n'ont plus rien à faire dans leur cave. Les caves de Clermont, en tout cas, parce qu'elles sont trop insalubres. Tant pis, mine. En perdant leur fonctionnement, elles ont perdu tout intérêt. Et on a refabriqué une espèce de mythologie sur les caves, de façon inconsciente, hein, à refabriquer comme ça. Comment on n'y accédait plus si tu veux que c'était fermé, que voilà, plus personne n'y allait, on a dit qu'il doit se passer des trucs là-dessous, etc. C'était devenu intriguant. Et voilà, et moi je. Voilà. C'est-à-dire que passer cette période de questionnement du mythe, et pour les avoir beaucoup fréquentés, je peux rassurer ici tout le monde, il n'y a absolument rien de particulier qui se passe là-dessous. Ce qui s'y passe de particulier, c'est ce qu'on y amène maintenant, qu'on y fait maintenant. Et on peut encore y faire des choses. Piégé à l'intérieur sans pouvoir sortir, non, par contre, attendu à la surface, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que des gens ont vu rentrer, ils ont appelé la police, et la police m'attendait tranquillement à la surface. Alors, en général, ça se passe bien, parce que déjà, je suis plus un adolescent, j'ai pas de bombe pour taguer dans mon sac, j'ai plutôt un appareil photo, des choses comme ça, quoi, donc, en général, ça se passe bien. Je suis soumis à la question sur qu'est-ce que je vais faire là-dedans, et puis j'ai à peu près les mêmes réponses que celles que je viens de faire, c'est-à-dire que je vais juste circuler, voir ce qu'il en est, je ne sais même pas faire un état des lieux, je ne sais pas d'être exhaustif, je ne sais pas d'être, je n'ai pas cette volonté d'archivage qu'à la cavite, mais j'y vais simplement pour y aller, pour voir comment c'est.
L'accessibilité maximale dans les années 90 va diminuer. plus tard, et puis moi-même, je suis maintenant sur le
Yeah. une salle des fêtes vide et une salle des fêtes pleine, ça change la donne. En fait, ce qui se passe dans l'atelier, vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau sonore. Et la pièce est pleine de percussions, de peaux tendues, de cordes tendues. Et donc, par sympathie, ce qu'on appelle par sympathie, elles se mettent à vibrer sur certaines fréquences. Si on voulait faire chanter une toile, par exemple, une toile en tôle, on met la toile devant soi, et puis on crée des fréquences avec la bouche, c'est assez puissante, elle se met en résonance. Elle va prendre et elle va l'amplifier et se mettre à vibrer. Elle va lui créer un son. Voilà. Ça, c'est la sympathie en règle générale. Quand on est dans une atmosphère, une pièce fermée, une cavité par exemple, et qu'il y a une production sonore comme une chute d'eau, une fontaine, tranquille, qu'il n'y a pas d'autre production sonore autour, on peut percevoir plus ou moins la richesse harmonique, c'est-à-dire la composition de son, la composition de couleurs. La couleur est composée pour des différentes couleurs de base. Le son, c'est pareil, il y a des harmoniques qui sont plus ou moins riches. Riche vers le grave, riche vers l'aigu. Et donc, si on se pose un peu, on prend le temps de mener une écoute tranquille, on peut percevoir différentes harmoniques. Et c'est pour ça que, par exemple, cette pièce fermée avec son nom du coup, on peut croire reconnaître des sonailles, croire reconnaître des voix, croire reconnaître des cloches. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de tout le conte dans lequel on parle des cloches qu'on écoute à tel moment, à tel moment, par exemple, comme un bois auprès d'une clairière, dans une grotte. Tout ça s'explique physiquement, mais c'est assez agréable à faire parce que moi je fais l'expérience des fois. Il m'est arrivé par exemple une nuit d'écouter l'eau qui coulait dans le radiateur de la maison. Et je percevais des clochettes. Ça faisait comme des clochettes. Ça exprime bien ce type d'illusion un petit peu sonore qu'on peut avoir, qui va déboucher après sur des tas de contes d'histoire qu'on écoute depuis des siècles et des décennies. Ça, c'est un côté rigolo pour lui. Parce qu'on peut être berné par ce que le conte est. Là, je parle pas mal. positif. Je veux dire, un bois, ça sent aussi. Quand il est trop chauffé, ça sent. Donc on voit qu'on va trop loin dans la zone. C'est comme ça que... Quand tu touches les pieds sur l'instrument, j'ai bien calqué, je vais le faire avec lui. C'est important que l'instrument enchaîne. On a des outils. Je m'appelle Serge Durin, je suis facteur d'instruments à vent, restaurateur d'instruments à vent, et je suis installé à Rion, puis de Dôme, dans un atelier où je mène toutes mes petites activités liées à ça. Avant que vous arriviez, je faisais un travail très relativement simple. J'étais en train de remonter une clarinette que j'ai réparée, qui avait eu un petit accident. Et du coup, voilà, je suis assis, j'écoute la radio, j'écoute de la musique, et puis. J'étais en train de remonter toutes les clés de l'instrument, donc ça demande de l'attention et pas trop de perturbations sonores. Parce que j'écoute ce qui se passe aussi. Par exemple, quand je fais boucher un tampon, une clarinette, j'écoute aussi comment il bouche. Je teste avec des outils pour voir s'il est bien étanche, pour le bruit. Mais avec la facture instrumentale pure, la fabrication de l'instrument, ça va être quoi? Ça va être de l'acoustique, de la physique, des matériaux, des volumes, des trous, on va combiner tout ça, on va essayer de combiner le tout avec des techniques numériques et mélodiques, avec des
a few seconds later. They were sleeping in the garden, and just after they wake up and they came back. We were in the house and they said us, okay, you can start and play some sound. Then we turn off our computers and we started to play sound.
Yeah.
raconte, quoi. J'ai envie de voir pourquoi maintenant, pourquoi il l'a eu, quand est-ce qu'il l'a eu, qu'est-ce qui s'est passé, quel accident il a eu. Donc déjà, on écoute ça, c'est le premier travail de lui, et c'est comme un docteur, quand il est là, il va écouter d'abord. Enfin, normalement, c'est ce qu'il devrait faire. Et après, on se met d'accord, on essaye de calmer un petit peu le jeu en disant, voilà, on peut faire ça, on ne peut pas faire ça, moi je suis capable de le faire ou je ne suis pas capable de le faire. Et puis, c'est une approbation commune du travail ou de ce qu'on va faire sur l'instrument. Donc ça se passe comme ça. C'est quelque chose que j'ai mené depuis tout jeune, tout petit, de m'intéresser à l'objet sonore. D'abord par le biais du jouet sonore populaire. Donc tout ce qui se faisait en milieu rural et qui se fait encore, ou en milieu urbain, peu importe le milieu, en fait, sur le détournement et l'utilisation de matériaux de la nature ou de récupération ou autre pour créer des objets sonores, qu'ils soient des jouets sonores, qu'ils soient des instruments simples, des instruments populaires. Donc ça, je suis toujours intéressé à ça, parce que peut-être mon grand-père m'avait ici à ça, tout petit, en fabriquant pas mal d'objets différents, pour appeler des acros, pour des oiseaux, des animaux. Je m'y suis intéressé par la suite au cours de. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou que j'allais dans un pays, c'était un sujet qui m'intéressait. Donc j'ai rencontré à la fois des acteurs de ce sujet-là, des musiciens, des facteurs d'instruments, des possesseurs de collection, des acousticiens, des chercheurs dans ce domaine-là. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé et je continue toujours. Alors le but de tout ça, c'est pas vraiment maintenant, c'est un petit peu évolué dans mon action, c'est-à-dire que je ne suis pas trop intéressé pour fabriquer des objets sonores comme je faisais à l'époque où on prenait par exemple un tuyau, le transformer en flûte. Bon, voilà, ça c'est fait depuis. Il y a plein de gens qui font ça maintenant et j'essaye d'aller dans d'autres directions qui sont liées à la perception auditive et tout ce qui peut mener à la perception d'un son et tout ce qui n'est pas non plus uniquement lié à l'oreille mais aux autres sens. C'est-à-dire qu'on peut sentir les sons d'une autre façon. Ça, on peut les sentir tout le squelette, tout le système du corps, le toucher, l'œil aussi, on peut voir la visite, les vibrations, les sons. Donc tous les sens participent à la perception sonore. C'est ça un petit peu qui me mène un petit peu dans mes recherches d'instrumentation non conventionnelle, on va dire, de création de structures sonores ou de travail pour des plasticiens, des installations, des installateurs, des gens qui ont besoin d'instrumentation avec, dans l'idée de, je dirais, de créer des sonorités nouvelles et des nouvelles formes d'interface aussi. Ça reste souvent un travail lié à l'acoustique, ce que je fais. Je ne travaille pas avec des chroniques. Ça reste toujours la matière, l'objet et ce qu'on peut tirer de son. Ça ne ressemble pas à des instruments, ça peut ressembler, je sais pas. Les derniers que j'ai travaillé, bon, c'était des pierres. Je travaille sur les pierres, sur les phonolithes, en ce moment. C'est-à-dire, les phonolithes, c'est une pierre qu'on va trouver dans plusieurs massifs volcaniques, dont ceux qu'on trouve en Auvergne, comme la Jonquière, Saint-Manoir, comme dans le Cantal, à Menet, sur le plateau du Mézin, on va trouver des coulées de lave qui nous donnent ce qu'on appelle les tuiles, les pierres qui servent à couvrir les toits, mais qui sont très chantantes, c'est-à-dire si elles sont percutées. Donc en les choisissant, on peut déjà s'en servir comme ça se faisait il y a très longtemps au début de sur cette terre, en les percutant avec des os, avec des percussions avec du bois, avec des bois de renne, tout ça. Ça, c'est pour servir simplement comme une percussion classique. Et puis après, cette matière-là, on peut la jouer différemment. C'est-à-dire qu'on peut la mettre en tension, lui créer des tensions, la faire sonner avec d'autres excitateurs. Un excitateur, c'est quelque chose qui va produire le son. On peut parler des percussions pour les marteaux. Et on peut aussi la travailler avec des archers, la mettre en résonance avec des archers, ou avec d'autres formes, avec les doigts aussi, avec d'autres façons de la mettre en œuvre, c'est ce que je fais.
Oui. Oh oh. Des toilettes, ça résonne vachement. Le pentacle qui te parle ?
Oui.
Le pentacle qui nous parle ? Quand ce micro parle, le reste se tait. En fait, non, c'est pour tout le monde, mais est-ce que c'est que sur la façade ou est-ce que c'est aussi à l'antenne ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe à l'antenne quand on parle sans cesse ? Est-ce que ça descend le reste ou est-ce que tout le reste reste ? Le reste reste ? C'est étonnant. Et c'est du tri français, c'est de la qualité, monsieur. On sait bien que dans ce cas-là, il y a trois, il y a le courant qui va dans un sens, le courant qui va dans l'autre sens, et le courant qui va dans le troisième sens, c'est le triphasé, hein, dans la direction orthogonale. Bonsoir, vous écoutez donc toujours Saucisse Record, il est exactement 5h22, ou à peu près. Non, c'est faux, il est en fait 4h40, mais comme notre horloge biologique s'accélère avec la nuit, eh bien on a la sensation profonde qu'il est 5h22. Là je parle et ça écrase pas le reste. En fait c'est ça. Ouais, c'est le compresseur global qui écrase. De toute façon de base c'est la faute du compresseur.